Famille, justice, enfance.
Famille, justice, enfance, un enregistrement ce soir, nous allons faire du local. France Victime Dordogne, cette association, vous l'avez tous vue à côté du tribunal. C'est une association qui recueille les gens qui ont besoin de renseignements juridiques et autres. Nous allons en parler aujourd'hui avec Marine Koutelec, qui est responsable de cette association dans ses locaux depuis une vingtaine d'années. Madame Koutelec, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Ça va, je vous remercie.
Bon, dites-moi, là, France Victime Dordogne, c'est une association qui est nationale. Je crois que j'ai pu constater qu'il y avait plusieurs antennes dans le pays et autres, etc. Quand on passe plus de 20 ans quelque part, c'est qu'on a une volonté un petit peu quelque part initiale. Qui est Marine Koutelec ? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça ?
Alors, je suis une femme qui a toujours, d'aussi loin que je m'en souvienne, dans le cadre de mes études, souhaité m'orienter vers le droit. Donc, c'est ce que j'ai fait une fois que j'ai eu mon bac.
Des études de droit ?
J'ai fait des études de droit.
À Bordeaux ?
À Périgueux d'abord, à l'antenne. D'accord. Voilà, hein, une antenne qui, moi, à l'époque, proposait le DEUG et qui propose maintenant une licence, mais qui est donc une antenne de la fac bordelaise. D'accord. Et donc, à l'issue de ces 2 ans, je suis partie faire 2 ans supplémentaires à Bordeaux. Donc, ce qui m'a conduit à la maîtrise, qui maintenant s'appelle le Master 1. Et une fois arrivée au bout de ces 4 ans, j'ai décidé d'arrêter. J'avais la volonté de travailler sans savoir véritablement...
Vous avez fait les 4 ans en 4 ans ?
En 4 ans.
C'est une belle performance déjà, parce que ça écrème beaucoup. Il y a les premières années en droit...
Voilà, ce qui m'a amené un peu à me dire, bon allez, ça y est, voilà, restons-en là pour l'instant, c'est très bien, et allons voir ce qu'on peut en faire maintenant.
Parce que 4 ans, vous n'étiez pas très très loin, là, l'école d'avocat se profilait.
Alors c'était le souhait de départ. Voilà,
oui,
c'était le souhait de départ. Et puis, une forme peut-être un peu de lassitude. Donc, j'ai fait ce souhait-là de m'en arrêter là, sans vraiment savoir vers quoi j'allais m'orienter. Donc, ça s'est plutôt très bien enchaîné pour moi. C'est-à-dire que j'ai arrêté au mois de mai. On devait être après les partiels au mois de mai. J'avais mes petits boulots d'été qui étaient calés. Donc, j'ai fait mes petits boulots d'été. Et puis, arrivé au moment de la rentrée, je me suis dit, voilà, bon, j'ai quand même ce diplôme-là, et en même temps, alors à l'époque, hein, pour les plus jeunes auditeurs, je vais ressembler à un dinosaure, mais à l'époque, l'outil informatique et Internet, c'était pas comme c'est développé maintenant. Donc moi, j'avais besoin de me former en me disant que de toute façon, ce bagage...
2005-2006
Ouais, voilà, c'est ça, ouais. 2005. Donc ce bagage que j'avais là, théorique, il fallait qu'il s'accompagne aussi d'une pratique de l'informatique pour pouvoir trouver plus facilement du travail. Donc j'ai fait une formation avec le Greta, et donc je me suis formée à l'outil informatique, et à l'issue, il fallait faire un stage. Et il s'est trouvé que j'avais vu une annonce, il y avait une recherche dans l'aide aux victimes, ça s'appelait ADAVIP à l'époque, Association départementale d'aide aux victimes d'infractions pénales. Et donc j'ai postulé et je leur ai proposé de faire mon stage chez eux, ce qui pouvait aussi être une forme de période d'essai pour l'un et pour l'autre. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc je suis arrivée en décembre 2025, en 2005, pardon. Et donc ça fait tellement longtemps qu'on le dit comme ça. Donc en décembre 2005, et puis j'y suis toujours.
Et c'est une belle histoire, parce que vous avez rencontré, en fait, votre destin, quelque part. Vous avez rencontré l'endroit où vous avez
Oui, parce que c'est peut-être une arrivée un peu par hasard, c'est-à-dire qu'en Dordogne, voilà, j'avais cette chance-là quand même de trouver dans ma ville, à Périgueux, un poste qui me permettait de mettre quand même mes compétences juridiques au service des autres. Et il y avait aussi ce volet-là, moi, qui m'a plu immédiatement, qui était de pouvoir rendre service, d'avoir ce côté humain, d'avoir ce côté social qui me permettait d'avoir un tout. Donc je me suis trouvée très chanceuse de pouvoir avoir accès à ce poste dans une ville comme Périgueux. Et puis je crois qu'on arrive un petit peu, peut-être un petit peu par hasard dans l'aide aux victimes. En tout cas, on n'y reste pas par hasard, ça c'est sûr. Hein. On ne reste pas 20 ans dans la même structure associative s'il n'y a pas une forme de vocation finalement qui naît. Et puis c'est trouver du sens et avoir du sens dans ce qu'on fait. Donc moi, j'ai exercé longtemps la fonction de juriste au sein de l'association. Et puis au bout de quelques années, je suis devenue chef de service. Donc c'est vrai que je suis beaucoup moins en lien avec les victimes qu'auparavant, même si je garde encore un petit côté.
Vous faites partie de ces gens qui managent, mais qui sont passés par les différentes étapes.
Oui, bien sûr.
Vous savez très très bien de quoi ce qui se passe.
Alors avec des évolutions.
C'est intéressant quand on encadre.
Être passé, de connaître les difficultés. Alors évidemment, moi quand j'étais juriste, l'aide aux victimes n'était pas ce qu'elle est maintenant. Il y a eu quand même beaucoup d'évolutions, des missions de plus en plus importantes qui nous sont confiées. Mais j'essaie de donner aussi de temps en temps un coup de main qui permet également de garder un pied pied dans le terrain et dans la réalité.
Donc, 2000-2005, par là, Adavip.
Oui.
Tout de suite, c'était, vous sentiez que c'était l'ado victime, c'était une association qui était déjà là pour avoir des gens qui venaient et qui avaient des interrogations et autres.
Oui.
En fait, quelle est la raison d'être bon, j'ai une petite idée, mais je vais poser la question quand même. Quelle est la raison d'être d'Adavip qui ensuite, visiblement, est devenue, pour cette antenne France Victime, France Victime d'Ordogne, pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir des associations d'aide juridique à des victimes Alors qu'en fait, ces associations, elles viennent d'où? Elles sont là? Pourquoi? À quoi elles servent?
Alors, il faut qu'on remonte un petit peu dans le temps. On remonte dans les années 80. À l'époque, c'est Robert Badinter qui est ministre de la Justice et qui, avec évidemment toute son expérience d'avocat, dit...
un nom prestigieux qui vient de passer. Là,
effectivement. Hein, et qui regarde la victime et qui voit la solitude de la victime dans les prétoires et qui se dit c'est absolument pas possible de laisser ces victimes, notamment après des procès d'assises, repartir comme ça, seules. Il faut qu'on fasse quelque chose pour ces victimes. Il y a des droits qui sont dévolus aux auteurs, peu importe le stade, hein, prévenus, accusés, mise en cause, etc. Et qu'est-ce qui existe pour les victimes? À l'époque, il n'existe pas grand-chose pour les victimes. Donc, il décide de confier une étude. Voilà, il y a un rapport qui va être rendu sur l'aide aux victimes en France, qui est un rapport qui est fondateur donc, pour les structures d'aide aux victimes. Et il décide surtout de confier la prise en charge des victimes au réseau associatif. Il estime que le réseau associatif est le plus à même de pouvoir à la fois produire une aide de qualité, mais avec cette vocation humaniste qui va permettre de pouvoir accompagner les victimes. Donc au fur et à mesure des années, en fait c'est comme ça que se crée l'aide aux victimes en France, on est dans les années 80. En 1986, c'est la fédération, alors INAVEM à l'époque, hein, Institut National d'Aide aux Victimes et de Médiation, devenue France Victime, qui est créée pour fédérer les quelques associations d'aide aux victimes qui se sont spontanément créées dans tout le territoire français. Nous, notre asso, elle date de 83. Voilà. Donc 86, on a l'arrivée de la fédération France Victime qui va permettre de structurer ce réseau de l'aide aux victimes. Et puis au fur et à mesure des années, évidemment, de plus en plus des lois en faveur des victimes. Il y en a une, c'est la loi Badinter. On a beaucoup parlé de Robert Badinter par rapport à l'abolition de la peine de mort, mais il a une seule loi qui porte son nom, qui est une loi en faveur des victimes, c'est la loi Badinter par rapport aux accidents de la circulation. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre aux victimes d'être accompagnées, de se sentir moins seules dans le cadre de la procédure, d'avoir des structures qui sont entièrement dédiées à leur prise en charge, que ce soit d'un point de vue juridique, puisque c'est vrai que c'est peut-être la première chose qui émerge. C'est-à-dire que quand on est victime d'une infraction, souvent c'est la première fois que ça arrive, on se retrouve complètement démuni. Il y a tout l'aspect psychologique, le choc, le traumatisme.
Je vais faire une parenthèse. La première fois de votre vie où vous rentrez dans un tribunal parce que vous avez quelque chose à y faire, c'est un choc.
Oui.
C'est un choc culturel, c'est une incompréhension. Il y a des conventions, il y a des rites, on ne sait pas trop, voilà, on se demande ce qu'on fait là. Très clairement, c'est un moment qui peut être un petit peu violent. Et on peut comprendre le besoin ne serait-ce que d'avoir un cas qui posait des questions.
Absolument. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve victime du jour au lendemain et je tiens à dire on a tous été, ou on sera tous victimes de quelque chose dans notre vie. C'est que c'est pas forcément toujours dramatique, mais si on réfléchit bien, on a pu être victime de raquettes à l'école ou au collège, où on s'est fait voler le portefeuille dans le sac de sport, les pneus crevés, une rayure sur la voiture. Enfin, il peut y avoir plein de choses.
Bien sûr.
Et finalement, il y a des choses évidemment plus ou moins graves qui se produisent. Mais toujours est-il que quand on est confronté à la justice, souvent c'est la première fois. Et comme vous le disiez très justement, c'est codifié, c'est ritualisé, c'est un langage qui est propre. Et on peut se trouver complètement démuni face à ce monde qui s'ouvre et qui est complètement inconnu.
Il y a un temps d'apprentissage. Ouais. Là, par contre, j'ai une question. Comment vous définissez le mot victime? Parce que visiblement, ce n'est pas un accompagnement d'usagers. Donc c'est l'accompagnement de personnes qui portent plainte?
Pas nécessairement. C'est-à-dire que la victime peut très bien ne jamais déposer plainte. La personne qui est victime, c'est la personne qui va subir directement un préjudice à cause d'une infraction.
D'accord. Voilà. Je prends un conflit familial, un divorce et autres, les deux vont s'estimer victimes.
Mais ils ne sont pas forcément victimes d'une infraction pénale.
D'accord.
Si on est dans un conflit...
dans votre cas, c'est pour que je puisse comprendre,
oui,
effectivement,
bien sûr.
Vous êtes à destination des personnes qui ont été victimes de quelque chose de répréhensible par le code pénal.
Absolument.
C'est ça, pour définir vraiment...
Absolument, c'est ça. Il n'y aura peut-être pas de plainte, mais en tout cas, c'est pénalement répréhensible.
D'accord.
Et prévu par le code.
D'accord,
effectivement.
D'accord. Okay, d'accord.
Ouais.
C'est pour comprendre.
Et donc, c'est vrai que quand on est victime, on se confronte à ce langage particulier, à ce fonctionnement particulier. On peut avoir une fausse représentation de la justice qui va être plutôt ce qu'on en sait, ou ce qu'on en voit, ce qu'on en entend à travers les médias, à travers la télévision.
Voilà.
Donc on dit pas votre honneur, par exemple en France, il y a les juges n'ont pas de perruque, il n'y a pas objection. Voilà, non mais c'est des choses, donc très rapidement, ça peut être alors je dépose une plainte, comment je dois déposer une plainte? Ça, c'est à peu près clair pour tout le monde. Une fois que la plainte elle est déposée,
on a fait des gros progrès sur ce point.
Voilà.
On a informatisé comme les commissariats, les gendarmeries, la prise de plainte, une partie d'entre elles peut se faire en ligne.
Tout à fait.
Quand même en 10, 15, 20 ans, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. Ça, on peut le dire quand même, oui.
Absolument. Et voilà, je dépose une plainte, mais combien de temps ça va mettre? Est-ce que c'est normal on peut se dire, est-ce que ça prend un mois? Est-ce que ça en prend 2, 3, 10, 1 an, 2 ans? Voilà. Combien de temps ça prend? On parle du procureur, mais quel est son rôle finalement à ce procureur? J'ai une audience, est-ce que je dois y aller, pas y aller, prendre un avocat, pas prendre d'avocat? Enfin, c'est toutes ces questions-là. En fait, on va essayer, nous, alors bien évidemment, nous ne sommes pas avocats, mais on va essayer de rendre accessible, le plus accessible possible, ce milieu à la victime. Parce qu'une victime qui est bien informée, qui comprend ce qui se passe, c'est une victime qui va mieux vivre la procédure, pour laquelle il y aura peut-être moins de surprises, ou elle se dira, tiens, ça c'est vrai, on m'en avait parlé, donc ça arrive à ce moment-là. Voilà, c'est une victime qui va quand même mieux vivre le temps judiciaire quand elle est bien informée de ce qui se passe, de la façon dont ça peut se passer. Puis on va faire tout ce travail d'orientation aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'il va en falloir un avocat, donc on va pouvoir orienter. Il y a des permanences gratuites. Alors, il y a des permanences gratuites qui existent dans le cadre des points justice. Il y a aussi des permanences d'avocats victimes, donc on peut remettre les numéros. Enfin, voilà, on va orienter soit quand on fait de l'écoute, c'est-à-dire que quand même la première chose, quand on est en lien avec une victime, c'est le travail d'écoute. Parce que déjà, ça permet aux personnes d'avoir un espace sécurisé avec une écoute professionnelle qui va permettre de déverser un peu les ressentis, qui va permettre aussi de pouvoir analyser les besoins.
Et c'est là qu'on va rappeler que dans vos locaux, vous avez des juristes, mais vous avez aussi des psychologues.
Tout à fait.
Voilà, parce qu'effectivement, l'écoute, pour en avoir fait dans d'autres circonstances, d'autres environnements, il y a une partie où il faut recueillir le fardeau, il faut réussir à comprendre ce qui est exprimé.
Tout à fait.
Et c'est pas que de la technique.
Ah non. Voilà, c'est déjà une écoute empathique, une écoute bienveillante. On sait très bien que les personnes victimes, elles peuvent, et c'est tant mieux, avoir un appui familial ou de l'entourage qui va leur permettre aussi d'avoir des ressources internes. Mais parfois, les
proches...
Une vraie
victime, très souvent, est incrédule.
Voilà, et puis
elle ne comprend pas.
Elle ne comprend pas, et les proches ne comprennent pas.
C'est possible, ça? Il y a un petit côté comme ça.
Et puis les proches ne comprennent pas toujours, non plus. C'est quand on parle des violences conjugales, moi je ne comprends pas, pourquoi tu es restée si longtemps, pourquoi tu n'es pas partie tout de suite, ou même, je ne sais pas, des violences dans la rue, attends, ils te donnent un coup de poing, tu n'as pas répliqué, mais moi je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas réagi comme ça. Il y a multiples exemples, on parle aussi des arnaques, là, les escroqueries.
Il y a le trauma, oui, l'image de soi, l'image de soi, la honte, le traumatisme.
Et puis parfois aussi, on sait très bien que, notamment sur les faits des plus graves et les faits de violences sexuelles, s'ouvrir à ses proches, c'est aussi leur faire du mal, c'est aussi leur faire de la peine. Donc, il peut y avoir, je l'ai dit une fois, mais maintenant, maman, papa, je ne veux plus trop leur en parler parce que quand j'en parle, ils pleurent, je sens qu'ils ne sont pas bien, donc je ne veux pas leur faire de la peine. D'où l'intérêt, finalement, de se tourner vers une structure qui est là pour recueillir la parole, sans jugement, avec bienveillance, et qui va, comme je vous disais, aussi permettre d'analyser les besoins.
Vous avez un grand flux de gens qui viennent vous voir, je veux dire, par exemple, sur une année, on va dire les dernières années, là, vous avez grosso modo combien de personnes qui viennent vous voir?
En 2025, on est à, alors, le nombre de victimes aidées, 2523 sur le département.
Ce qui veut dire que vous en avez reçu un peu plus, mais que les dossiers ouverts concernent 2523.
Ah non, on en a reçu 2523.
D'accord, oui. Ok.
Par téléphone ou en présentiel, ça dépend, mais en tout cas, il y a un peu plus de 10 000 entretiens qui ont été menés sur l'année.
Oui, on divise par 12, ça fait du monde.
Oui.
Ça fait quand même un certain flux. Il y en avait autant il y a 20 ans?
Ouh là, non.
D'accord, ça c'est on en parlera un petit peu après. Première question, comment ils vous trouvent? Est-ce que dans les commissariats, il y a des affiches qui envoient vers vous? Est-ce que, comment ces gens atterrissent chez vous?
Parce que de deux manières.
Je suis passé moi aussi par diverses phases. J'ai appris votre existence longtemps après avoir commencé à fréquenter ce genre d'environnement. Donc de deux manières.
Il y a deux possibilités. C'est-à-dire que soit c'est la personne victime qui a l'initiative de la prise de contact.
D'accord.
Et auquel cas,
parce qu'elle savait que vous existiez.
Alors, elle va retrouver nos coordonnées. Alors, si elle dépose plainte, il y a nos coordonnées qui sont remises systématiquement avec le récépissé de dépôt de plainte.
D'accord.
Ça, c'est une obligation légale. Okay. Avec le récépissé de dépôt de plainte, il y a les coordonnées de l'association.
Il
peut y avoir en plus, effectivement, des affiches, des flyers mis à disposition.
Vous avez un site web sur Google, ça répond. D'accord, un peu de communication.
Il y a une page Facebook.
Via le dépôt de plainte.
Via le dépôt de plainte. Après, il y a par le biais de tous nos partenaires. Ça peut être je me rends au tribunal, poser une question, je vais être orientée vers l'association.
Il y a une affiche près du greffe au tribunal, je crois d'ailleurs.
Je suis suivie par une assistante sociale de secteur, j'ai besoin. Ça peut être tous relationnel, les partenaires. Et puis après, ça peut être aussi les relations personnelles, okay. Je fouille sur Internet, etc. Donc ça, c'est la victime qui a l'initiative de la prise de contact. Après, nous sommes de plus en plus, nous, à l'origine de la prise de contact. Comment ? On peut être mandaté, on peut avoir des réquisitions par la justice pour effectuer une mission particulière auprès des victimes. Alors, je précise que nous sommes agréés par le ministère de la Justice et d'ailleurs principalement financés par le ministère.
Vous êtes auxiliaire vous-même ou des fois un
petit... On reste association loi 1901 indépendante, mais agréée et financée D'accord. justice. Donc, on a tout à fait la possibilité, c'est un article aussi qui D'accord. dit que les magistrats, notamment procureurs, peuvent réquisitionner l'association d'aide aux victimes agréée pour porter aide et assistance aux personnes victimes, ou alors pour effectuer certaines missions spécifiques dans le cadre notamment des violences intrafamiliales.
Ils vont estimer qu'il y a un truc grave, une personne qui est Absolument. Un peu démunie, qui a besoin d'aide, ils vont
C'est
vous envoyer vous.
Ils vont nous demander de contacter cette personne parce mm-hmm. qu'ils vont considérer que les faits sont d'une particulière gravité, qu'il y a une pluralité de victimes, que l'affaire est médiatisée. En tout cas, qu'il serait dommage d'attendre que la victime éventuellement prenne contact, puisqu'il n'y a absolument pas de garantie. Je vous le disais, 2500 victimes, un peu plus en 2025, il y a bien plus de personnes victimes sur le département, mais toutes ne font mm-hmm. pas cette démarche, ne prennent pas l'initiative de nous contacter pour okay. diverses raisons. Elles n'ont pas mmh. besoin, elles ne savent pas qu'on existe. Enfin, voilà, les raisons, elles peuvent être multiples. Donc, le procureur peut très bien considérer qu'on ne va pas attendre et on va demander à l'association de prendre contact pour faire ce qu'on appelle une mise à disposition. Donc, on appelle, on dit voilà qui on est, voilà quelle aide on peut vous apporter. Est-ce que vous avez besoin de nos services Donc, ça, c'est ce qu'on appelle les réquisitions pour aide et assistance. On peut avoir des réquisitions dans le cadre des violences intrafamiliales et particulièrement des violences conjugales qui ont vocation à avoir une mission très particulière. Réaliser ce qu'on appelle une évaluation victime, c'est-à-dire demander à la victime d'avoir avec elle un entretien pour essayer de balayer sa situation à l'instant T sur tous les aspects de sa vie, c'est-à-dire professionnel, familial, médical, etc. L'idée étant de pouvoir dégager d'éventuels besoins de protection. Donc ça donne lieu à un rapport qui est remis après au magistrat.